Et salut la communauté de Jype! Ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu. On a un taux de podcast en ce moment un peu complexe, simplement parce que moi, notamment, j'ai perdu mon ordinateur. Enfin, perdu. Il a le disque dur qui lui a dit au revoir. Du coup, forcément, ça a été un peu plus lent. Et Den a été trop occupé, mais il est là! Salut Den!
Bonjour, ouais, il m'est arrivé plein de trucs, j'ai eu une quantité astronomique de coaching, des tournois, des choses, etc. Donc voilà. Mais on a quand même trouvé le temps, même si en termes de régularité, on n'a pas été des exemples.
Voilà, le truc c'est qu'on a eu une très très grosse période juste avant que mon PC ait un gros problème et que du coup on puisse plus record. Et on a eu, voilà, là vous voyez, je sors d'un week-end entier de pas de coaching, d'arbitrage sur un gros event, le SWC. Et on enregistre vidéo, il est presque 2h du matin parce qu'on vous aime et que quand même vous nous manquez. Donc voilà.
Totalement.
Donc, les enfants, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, pas de débat, tout simplement, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. On va parler, comme d'habitude, de l'e-sport. Donc, ceux qui en sont intéressés par l'e-sport, restez. On va parler du Summer Mansion, qui était le tournoi du week-end chez Life Coach, un tournoi de type qualitatif. Et nous allons parler de tout ce qui est actualité Hearthstone. Et là, dans l'actualité Hearthstone, il y a énormément de choses. On va devoir parler de beaucoup de trucs. On va parler de la prochaine extension qui arrive dès la semaine. On va parler de la ressortie en wild. On va parler du Q&A avec.
D'ailleurs, en parlant de tournoi, si, il y avait les finales du Wild Open
Oui,
aussi ce
il y
week-end.
avait les finales du Wild Open, on va en parler aussi. On va parler du Q&A avec les développeurs. On va parler forcément du nerf de la Rogue Quest. Oui, de la quête du Rogue. Donc énormément de choses. Donc restez avec nous pour ça. Mais du coup, tout de suite, sans transition, on est parti, on parle d'e-sport. Et donc le premier événement qui nous intéresse, c'est le Summer Mansion. Et comme moi, j'ai pas pu particulièrement le suivre, et bah, aujourd'hui, c'est Den qui va vous faire un récap. De cet event. Den, comment c'était cet event? En général, les Summer Mansion, ils sont toujours très très cool.
Bah c'est quasiment une seed story en fait, c'est quasiment exactement la même chose, avec moins de joueurs, avec moins de hype, mais c'était le même principe. C'était tout aussi cool à regarder, c'était vraiment ultra agréable comme spectacle. À l'inverse de la seed story, il y avait des invités, il y avait des qualifiés. Ce qui ça fait assez plaisir quand même de voir que ben, des gros tournois comme ça, c'est encore accessible à tout le monde. Life Coach a très très bien fait les choses à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs un qualifié qui a gagné.
Ce qui prouve que bah c'est bien et peut-être nécessaire d'avoir tout le temps des qualifiés dans tes tournois.
Ben, bien et nécessaire, je dirais oui, parce que pour beaucoup de gens, mettre un qualifier à un tournoi, ça augmente aussi la crédibilité du tournoi. Parce que voilà, par exemple pour le qualifier de Life Coach, il y avait quand même 512 places. Donc il me semble que les deux finalistes étaient qualifiés, donc ça fait quand même 2 sur 512. Donc ça fait déjà une bonne journée de tryhard pour avoir le droit de participer au tournoi. Après honnêtement, juste le fait d'y aller, la maison de Life Coach vaut largement le coup, on va pas se mentir.
Ah, c'est une petite bicoque sympathique.
Voilà. Après, l'énorme point positif du tournoi, c'est le fait que c'était un format qu'on n'avait jamais vu. Life Coach qui a. Je pense pas qu'il l'a inventé, mais c'est un format que j'avais jamais vu, ce qui est le format du self-ban. Alors, qu'est-ce que donc que le self-ban? Comme je parle beaucoup, Volvi explique.
Alors, c'est simple, c'est que ici, contrairement à d'habitude où les joueurs viennent, présentent des listes à leur adversaire. Et l'adversaire vous banne une classe. Ici, vous présentiez tous vos decks à l'adversaire et vous décidiez vous-même de la classe que vous alliez pas jouer. Celle que vous pensiez qui allait être la plus faible. Du coup, ce qui fait que ça fait un switch au niveau du format, c'est que dans un conquête classique, on essaye de bannir le meilleur deck de l'adversaire. Et du coup, en théorie, on joue contre les trois moins bon deck face à sa line-up, pas forcément moins bon, mais pas forcément mauvais, mais en tout cas, ceux qu'on pense, c'est les moins forts contre nous. Alors que là, dans ce truc, on enlève le plus faible. Du coup, on joue peut-être les trois meilleurs decks contre la line-up adverse. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fonction du ban, peut-être que ta line-up va être différente en fonction de ce que l'adversaire lui-même va se bannir. Donc, il y a une espèce de réflexion méta autour des bans et de quel deck jouer, qui est pas inintéressante du tout. Et comme c'est en plus pas habituel, bah, c'est une nouvelle chose à réfléchir, parce que les bans, c'est quelque chose où on est habitué. Donc, les principes restent souvent les mêmes. Alors que là, comme c'est différent, bah, peut-être que ça a gêné certains joueurs. Comment c'est passé?
Alors honnêtement, malheureusement, le format n'a pas eu trop d'impact. Je pense que le seul problème de ce format, c'est qu'il est intervenu sur une fin d'extension. N'Goro arrive à sa fin, on voit un deck qui sort de temps en temps, mais on a globalement fait le tour de l'extension. Et du coup, ça a vraiment gêné la nouveauté, on va dire. On a rien vu de nouveau. Il y a aucun deck où un mec a débarqué. Voilà, c'était pas le genre de tournoi où un mec a ramené un deck ou deux decks qui ont complètement retourné le cerveau de ses adversaires. Voilà, on n'a pas eu ça. Le vainqueur a joué des decks très standards. Il y avait du mage, il y avait du guerrier pirate. Le deuxième, il y avait du paladin contrôle, du guerrier taunt, du mage. Enfin, voilà, c'était des decks très très simples. Et le problème du self ban, c'est, je sais plus quel joueur l'a dit, mais il y a un joueur qui a dit. En fait, du coup, j'ai ramené un deck qui est très fort dans le méta, mais sur lequel je me suis permis de pas trop m'entraîner, parce que du coup, je savais que je pouvais le ban au cas où. Et je trouve ça un peu dommage comme mentalité, parce que c'est un format très intéressant, et dès le premier tournoi dans ce format, il y a un mec qui a déjà trouvé la faille, qui est « Oh bah du coup, je m'entraîne que sur 3 decks ».
Oui, c'est effectivement, mais forcément, tous les formats ont leurs failles. Mais c'est vrai que après, je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Life Coach, parce que c'est lui qui a préparé le tournoi, qui a tout organisé. De chercher un nouveau format, de chercher quelque chose de différent. Voilà, nous, on est d'accord pour dire, Den, est-ce qu'on peut être d'accord pour le fait que le meilleur format au monde, quand t'es sur une fin d'extension, c'est le format Super Clash.
Oui, de toute façon, le format Super Clash. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur format au monde, mais en fait, le ban de cartes permet de faire est beaucoup plus flexible, parce que en fait, enfin, pour faire simple, le ban de deck, c'est de la macro, et le ban de cartes, c'est de la micro. Et dans tout ce qui est le réductible au maximum, la micro est toujours plus intéressante que la macro, donc forcément que le ban de cartes est plus intéressant que le ban de deck, et peut-être qu'un jour on ira encore plus loin que le ban de cartes, avec j'en sais rien moi, le ban de tour, le ban de coup en mana, le ban de tout ce qu'on peut imaginer en fait.
Et là il vous dit ça tout simplement parce que des fois on a réfléchi à changer le format du Super Clash, et on s'est dit, est-ce qu'on se dit pas genre à un moment l'adversaire il a dit non t'as pas le droit de jouer ce tour.
Ouais, mais après on s'est dit que si on l'annonçait avant, tout le monde jouerait Mage Freeze.
C'est ça.
Voilà. Mais du coup, ouais, je tire mon chapeau à Life Coach qui, pour un mec, bon, il avait une grosse organisation derrière. Il avait un coup de main de Need for Seat, il avait un coup de main de beaucoup de monde. Mais pour, on va l'appeler ça un particulier, parce que Life Coach est un particulier, pour l'instant en tout cas. Pour le seul particulier qui organise des tournois sur Hearthstone, il est très très loin d'être ridicule, et en plus il essaye d'innover. Donc à Life Coach, je tire mes deux chapeaux, quoi. J'ai envie d'en mettre deux sur la tête.
Oui, c'est ça, pour quelqu'un qui est pas dans une organisation, etc. C'était vraiment qualité, quoi.
Et puis il fait ça parce qu'il aime ça. Et putain, ça se sent, quoi. Tu passes un bon moment quand tu le regardes.
Et puis je trouve que le setup là-bas était vachement cool. Le fait que les joueurs soient autour d'une grande table. Posés, qui jouent, ils sont quasiment tous en face à face. On l'a vu. Moi, on m'a tweeté des tweets très drôles en mode. Et vous avez vu, ils ont copié sur le BGF. Mais non, c'est que voilà, Life Coach, c'est un joueur de cartes de base, c'est un joueur de poker. Il aime ce côté échange, et ça se sent dans les Summer Mansion. Parce que maintenant, c'est à quoi? C'est la deuxième ou troisième édition?
C'est de Summer Mansion.
Ouais.
C'est la deuxième.
Deuxième. Ça sent que c'est par un passionné pour des passionnés, et ça c'est cool. Donc voilà, est-ce qu'on a tout dit sur ce tournoi? Est-ce qu'on peut passer au deuxième gros event de la semaine?
Oui, niveau du coup, bravo El Machito. Du coup,
voilà. Du coup, le deuxième gros event de la semaine, c'était le Hearthstone Wild Open Finals 2017. Alors, moi, quand j'ai vu Wild Open Final 2017, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'ils vont en faire 15 cette année? Bon, pourquoi pas, peut-être qu'ils vont, ça va changer. Mais du coup, tournoi, celui-ci, j'ai pu le suivre, parce que du coup, c'était pas dans les horaires hein, où j'étais en train de caster, je le regardais un petit peu. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce tournoi? Qu'est-ce qu'on en a pensé, Dan? Est-ce que tu l'as suivi un peu?
J'ai regardé deux matchs, un peu perdus au milieu du tournoi entre les coachings.
Moi, j'ai été très déçu.
Moi, j'ai été déçu pour une chose, c'est que c'était un tournoi à 8. Il y en avait 7 qui jouaient full aggro. Voilà pourquoi. Enfin, en fait, ce tournoi, c'était un temple à pourquoi il fallait un mode standard à Hearthstone.
Il y a un peu de ça. Et puis, j'ai été déçu tout simplement parce que, en fait, il y a eu, je trouve, assez peu de decks innovants, j'ai l'impression qu'au final, parce que au final quand tu vois les noms des joueurs, Massink, on le connaît un petit peu, c'est le seul joueur où on a déjà qui a déjà fait des
Non,
tournois.
il y avait LVGE aussi, LVGE qui est un joueur de DHCT standard.
Oui, mais effectivement, mais t'as les contrôles. Moi je vois le top 4, tu vois, Massing Control, Alb 987 et
Control est reconnu comme un des meilleurs joueurs ladder wild
oui, c'est ça.
depuis le split et le plus gros streamer wild sur Twitch.
C'est le streamer wild. Et du coup, bah, quelque part, c'est assez logique qu'on le retrouve ici. Et du coup, ça montre malgré tout que l'entraînement, parce que je pense qu'il était devant tout le monde au niveau de l'entraînement sur le wild, parce que ça doit être le seul gars qui jouait vraiment beaucoup wild et qui faisait vraiment beaucoup de résultats en wild depuis que ça existe, bah ça paye. Et le gagnant, McNuggets, voilà, pas des noms connus, donc ce qui prouve qu'au final. La communauté des pros, des pros, quand je dis des pros, c'est les joueurs qui jouent en standard, les joueurs HCT, etc. Bah, avec la difficulté que sont les HCT, etc., ils n'ont pas pris le temps pour le wild en fait. On a eu beaucoup de gens qui étaient motivés au début, mais au final, c'était peut-être un peu pétard mouillé.
Non, il y avait beaucoup beaucoup de gens qui se sont qualifiés. C'est pour le tournoi. Le truc, c'est que se qualifier à ce tournoi-là, c'était extrêmement dur. C'est surtout ça, c'est qu'il fallait faire top 64 en wild. Donc ok, hein, c'est du ladder, c'est la même chose que pour les HCT, c'est la même chose que pour tous les systèmes de qualification. Il faut être performant sur le jeu, sur le ladder. Très bien. Ensuite, il y avait un énorme tournoi où il y en avait deux qui passaient par région. Et c'est là le problème, c'est que c'était un bracket à élimination directe avec les 64 joueurs qui étaient qualifiés.
Oui, c'était
En
du.
BO5, c'est d'une violence. C'est genre, t'as fait top 64, t'as grindé ta saison, et t'arrives, parce que j'imagine que du coup l'open à 64, c'était la même chose que le top 8, hein. C'était full aggro, et t'arrives dans un top 64 avec 90% du field qui joue aggro, et on te dit, faut que tu gagnes 6 BO5 à la suite. Et si t'en perds un, tu sors. Excusez-moi, vous foutez de ma gueule ou pas là? Enfin, je veux
Voilà,
dire,
donc.
le.
Ça déjà, ça a pas aidé à avoir des noms connus et du coup ça a pas aidé à ce que ce soit particulièrement vu. Je pense que la pub a pas été ouf sur cet event et surtout les decks. Le truc c'est que les decks c'est vraiment très très triste en fait. Les decks sont très tristes parce qu'il n'y a pas d'innovation. Le truc c'est qu'on a vu quoi? On a vu du War Pirate à base de patches. De patches et de Blood Cell Corsair et tout le tout team. Voilà, alors on a récupéré
Alors, c'est
Sir
pas compliqué.
Finlay. Alors on a mis Sir Finlay.
Les plus grosses line-up, c'était la Trinité aggro, donc War Pirate, Shaman aggro. Parce que oui, alors là, Shaman aggro, en wild, c'est le papa, quoi. Tous les matchs de Shaman que j'ai vus, il n'y avait pas de match. Il a ruiné tout le monde. C'est indécent à quel point Shaman aggro casse le jeu. Parce que, voilà, les mecs, à un moment, pourquoi il y avait besoin d'un format standard? Ben parce que sinon, Trog et Totem Golem, en fait, il faut qu'on efface la carte.
Oh oui, et puis
Voilà,
Crackle.
c'était totalement ouf. War Pirate pas loin derrière. Hein,
Token
bah
Druid
le,
aussi.
voilà, Token Druid, ça part. En fait, Token Druid, vous prenez celui du standard et toutes les créas, vous leur mettez des Frattle. Voilà, vous avez le Token Druid de Wild. C'est indécent. Et le dernier, bah, du coup, c'était Mage Freeze, qui est le seul deck qui va avec le même ban que les aggros, c'est-à-dire le ban guerrier, et qui est bien contre Token. Que contre Token Druid, parce que guerrier, pirate et shaman s'en foutent royalement
Oui, et puis
et ils vont tête. Et
Token
du
Druid
coup.
en plus, t'as le t'as le délire du fait que dans ce méta-là, t'as Jeeves. Et du coup, c'est ridicule.
Voilà. Ah non, et il y a Control qui avait ramené un prêtre. Voilà. Qui s'est fait ouvrir en deux et qui est mort T5 ou T6 en finale.
Voilà, donc pas énormément de choses comme ça. On a vu un peu de Reno Jackson. Voilà, on a vu les cartes trop fortes en fait qui existaient. C'est-à-dire qu'on a vu Reno et Kazakus revenir parce que quand tu peux jouer
Voilà.
Reno et Kazakus, tu joues Reno et Kazakus.
Mais malheureusement, en fait, toutes les critiques que vous avez entendues avant l'arrivée du standard sur ces cartes-là se sont confirmées dans ce tournoi. Reno, si les decks Reno n'avaient pas Reno au tour 6, ils étaient morts. Mais c'est pas peut-être, ils avaient une chance ou quoi. Non, ils étaient morts.
Et
C'est
s'il l'avait, il
instantanément.
gagnait.
Voilà. Et s'ils l'avaient, c'était match. Tous les decks aggro, dès qu'ils curvaient, il n'y avait pas match. Et particulièrement Shaman. Druide aggro, dès qu'il avait Innervation, il n'y avait pas match. Guerrier pirate, dès qu'il avait Ashe et l'amélioration, il n'y avait pas match. Et Mage Freeze, dès qu'il faisait Doomsayer T2, Into Secret, Into Double Vallée de Medivh, il n'y avait pas match. Voilà. Chaque deck avait sa combinaison pétée de cartes, et quand ça sortait, il gagnait. Et c'est celui qui en a fait le plus dans le tournoi qui a gagné le tournoi à la fin.
Voilà, on a retrouvé Docteur Boom. Parce que bah voilà,
Ouais.
c'est trop fort, donc forcément, quel que soit le méta.
Et les decks étaient tellement agressifs qu'on l'a pas beaucoup vu, Docteur Boom, au
Ouais,
final.
il était que dans 5 decks.
Les seules fois où on l'a vu, c'est quand le mec a fait Reno T6, du coup il a fait Docteur Boom T7 parce qu'il était à 30 PV et qu'il avait gagné.
Voilà, mais c'est ça. Et la rare la plus jouée, sans absolument aucune. Surprise, bah c'était l'Azur Drake, parce qu'Azur Drake, on le disait avant, c'est une carte trop forte, bah ça reste toujours une carte trop forte. Voilà, donc on a vu
Ouais, parce que.
l'Azur Drake et du Death Lord, mais voilà, le truc c'est que sinon toutes les cartes, voilà, en fait les trucs c'est que les cartes trop fortes d'avant et que tout le monde était d'accord étaient trop fortes, les gars les ont mis dans les decks, mais il y a plein de choses, il y a plein de decks qui peuvent tourner, il y a plein de choses différentes. On sait que certains joueurs avaient ramené, certains pros avaient tenté des decks Umbra, des choses comme ça, avaient tenté des decks adaptation. Là, on a vraiment l'impression que ça s'est réduit au OK, alors le format, c'est tu perds, tu rentres chez toi, donc on va pas faire de test. C'est notre seul truc de l'année. On va jouer le solide, le tout droit, le Reno. Dans les Reno, on va rajouter 3 cartes de la nouvelle extension parce que bah ça fait le taf. Et puis voilà. Et du coup, c'était vraiment très très décevant. Franchement, j'étais un peu triste. C'est
Alors,
bête à dire, hein, mais
attention, on ne critique absolument pas le niveau de jeu.
non, 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 pas du tout.
Mais voilà, mais c'est vrai qu'en termes de deck building, il y avait beaucoup plus de possibilités et il y a eu beaucoup moins de créations que par rapport à un deck standard. Je veux dire, moi, quand je regarde les prélims HCT standard, je suis beaucoup plus épaté par les decks que là sur ce tournoi Wild, alors que pourtant en Wild, il y a peut-être le triple de cartes.
Bah oui, c'est ça. Donc un event qui avait le qui c'était vraiment le but d'exister, il y avait beaucoup de hype. Et au final, c'est un peu décevant. Je vais pas le cacher, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. On fait avec. Est-ce que du coup on a tout dit sur ce tournoi de Wild? McNuggets a gagné, si je ne me trompe pas.
Non, il a pas du tout gagné, il était même pas en finale.
Hein, c'était hein?
La
Ah,
finale,
c'est bon.
c'était contrôle contre Alb et des numéros.
Ah oui, mince! Je me trompe. Mais bravo!
McNugget s'est fait sortir en demi-finale par Alb et des numéros.
Donc voilà, vous pourrez retrouver leur decklist sur différents sites. Mais effectivement, les decklists étaient aggro, hein. Par exemple, Alb, c'était aggro Pirate Warrior, aggro Token Druid, aggro Shaman et Paladin aggro.
Et Paladin Dude. Voilà.
Oh,
Qui.
enfin, Paladin aggro, parce que moi je suis désolé, mais quand dans ton Paladin tu joues 2 Lost in the Jungle, 2 mini-bots, 2 Muster for Battle,
Ah, c'est
deux
du cœur,
fois
hein. C'est de la.
la 3-3 qui donne Divine Shield. Alors tu
Ah,
peux dire,
c'est.
mais non, c'est pas un deck aggro, je tire rien à la fin. Non, tu te tais, tu rentres chez toi, c'est un aggro, c'est juste qu'il y a des cartes trop fortes en haut en Paladin, alors quoi qu'il arrive, tu les mets dedans.
Mais oui, c'était. Enfin, voilà. En fait, il y avait que des decks qui sont ultra forts. Mais en fait, voilà, c'est la critique qui peut être faite au wild, c'est qu'en fait, on joue pas avec des decks de 30 cartes. Tu joues avec des decks de 15-20 cartes et t'espères que les 10 que t'as mis en plus, elles sortent jamais. C'est malheureux, mais c'est un peu ça. C'est Paladin, tout ce que tu veux, c'est ta génération de tokens, ta 3-4 qui les adapte, ton Quartermaster, et ensuite ta rime Tyrion. Voilà, c'est, tu joues que avec ça, tu gagnes tous tes matchs. Pirate Warrior, c'est pareil, Shaman, c'est pareil, Agro Druid, c'est pareil, Freeze Mage, c'est pareil. Et c'est la grosse critique du Wild, c'est que tu fais des decks de 30 cartes, mais tu ne veux pas 30 cartes dans ton deck. Si tu pouvais jouer avec 15 cartes, tu serais encore plus fort.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tu pourrais choisir tes cartes, voilà, ça se regarderait, ça dirait je fais ça. On aurait l'impression que c'est des parties de Yu-Gi-Oh! Mais la série télé. Ok, bon bah écoutez, sur l'e-sport, on referme le volet et on va parler de tout ce qu'il y a de nouveau dans Hearthstone. Et là, on en a à dire, on a plein de choses parce qu'il y a plein de trucs. Et on va commencer la première annonce qui a eu lieu jeudi dernier. On l'a pas traité, donc on va la traiter vite fait. C'est l'annonce de modifications importantes pour les paquets de Hearthstone. Maintenant, dans les paquets, vous ne pourrez plus avoir de légendaires que vous avez déjà, tant que vous n'avez pas toutes les légendaires. De toute façon, quoi qu'il arrive, le nombre de doubles va réduire parce qu'il ne pourrait plus avoir par exemple trois fois la même commune dans un paquet parce que c'était ridicule. Qu'est-ce qu'on en pense, Den? Moi, je trouve que c'est vraiment très très cool.
C'est encore une main en avant, une énorme perche de Blizzard pour répondre aux critiques. Je crois que c'est la première fois dans un jeu de cartes que ça a été fait, mais que ce soit jeu de cartes dématérialisé ou physique.
Oui, effectivement, ça fait penser un peu au système de World of Warcraft. Actuellement, dans World of Warcraft, Dan n'y joue pas, donc je lui explique à lui, tout comme je vous explique à vous, il y a des objets légendaires qu'on peut équiper sur ces personnages, et le fait est qu'en fait, une fois que tu as une légendaire, tu ne peux plus looter la même légendaire. Tu es obligé d'attraper un autre légendaire dans le pool qui est dédié à ta classe. Donc, j'ai retrouvé un peu ça, ça marche sur World of Warcraft. Est-ce que ça leur est venu de là l'idée de faire pareil dans Hearthstone? Je pense qu'il y a un peu de ça et je pense que c'est cool.
Honnêtement, c'est à la fois un geste commercial pour amener les gens à acheter plus de paquets, ce qui est totalement normal, et en même temps quelque chose que les gens demandaient parce que c'était une critique qui revenait souvent. Donc Blizzard va sûrement vendre plus de paquets grâce à ça. Les gens sont sûrement plus contents à l'ouverture de paquets. Donc si les deux côtés sont contents, tout le monde est content.
C'est ça, c'est du win-win. Donc on est content. Donc voilà, ça c'est très bien. On peut pas dire autre chose. Et deuxième chose, ils nous ont lâché un petit. Une petite offre, l'offre du cratère géant, où vous allez avoir droit à des paquets promotionnels. Par exemple, si vous achetez 60 paquets, vous gagnez 18 paquets en plus.
Attention, ça ne marche que si vous achetez des paquets avec de l'argent réel.
Avec de l'argent réel, bien entendu.
Si vous dépensez 6000 gold, vous avez 60 paquets. Alors, on prévient pour les gens qui, au cas où, auraient essayé.
Ça, c'est assez classique et ce serait bien que démocratise et que ce soit le cas à chaque fois. Fin d'extension, un peu avant la sortie de la nouvelle. Voilà, moi j'ai plein de personnes dans mes amis qui m'ont dit ah ouais, mais là avec l'offre promotionnelle c'est cool parce que moi j'étais un peu en retard sur cette extension, j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu commencer cette saison parce que fraise et raison et tutti quanti. Bah là ils sont contents parce que voilà, ils ont pas joué au début de l'extension, donc c'est, il y a un côté, c'est logique en fait, la nouveauté de cette extension, ça se paye. Là, ça y est, le méta est stable, tu vas plus pouvoir t'amuser à tester des decks qui vont plus jamais exister. Si t'achètes des cartes maintenant, c'est pour te préparer au prochain méta. Que l'extension qui va être plus la nouvelle, en fait, qui va être l'extension antérieure, pas baisse de prix, mais au moins et des promotions. Comme ça, moi je trouve ça vachement cool.
Encore une fois, c'est du win-win. C'est logique, ça nous rappelle aussi que Hearthstone est un jeu mobile qui a pour vocation de faire de l'argent. Ça s'appelle un geste commercial, absolument toutes les entreprises du monde le font, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, quoi.
C'est ça, pour nous c'est bien, Blizzard va vendre des paquets grâce à ça, bah écoutez, hein, si tout le monde est content, on va pas se plaindre.
Voilà.
Bon, ça c'était fait. Ensuite, lundi...
Demain
lundi dernier. Ah, lundi, on était tranquille, etc. Et là, sur Reddit... Il y a Ben Broad qui se pointe
Je l'écoute, hein.
avec sa beubarde et ses lunettes. D'ailleurs,
Bon.
il n'a plus de barbe. Il arrive, il voit un message où les gens sont là en mode ouais, bon, bah les gars, quand est-ce qu'on a une nouvelle extension, etc. Et il nous dit,
Bougez pas.
il écrit, vous voulez que j'annonce une annonce? Ok, donc je vais annoncer que l'annonce de l'annonce, elle arrive bientôt. Bon, là, tu te dis, ok, d'accord, c'est bien, t'es un troll, hein?
Sacré bluffeur que ce bébrode.
Voilà, mais on laisse ça dans un coin et on va le traiter un peu plus tard. Parce que là, on arrive à mercredi. Et mercredi, qu'est-ce qui nous tombe dessus?
Un
Boum!
petit Q&A.
Pas un petit Q&A, l'annonce de la nerf du nerf de la quête voleur, la grotte des profondeurs. Et
Mais
alors
alors?
là,
Mais alors?
alors,
Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal, le voleur?
je vous avoue les gars, nous c'est Arcantas, le bien nommé, qui nous a envoyé la faux. Parce que il faut savoir que Arcantas, il a eu l'info et genre quelques minutes plus tard, c'était sur le site en train d'être uploadé. Et nous, on a eu l'info du coup une minute après, et j'ai fait What? C'est sorti de nulle part. Ils ont pas annoncé genre on va faire un round d'équilibre ou quoi. Ça fait des semaines qu'ils disent ouais Rocket c'est vachement joué, mais au final il a moins de 50% de win, donc c'est pas si gênant. Et là, ah bah il a moins de 50% de win, bah on le nerf quand même. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quel est le donc
Excusez-moi, vous aviez dit un truc logique juste avant, pourquoi pas rester dessus en fait?
Voilà. Donc qu'est-ce qu'on en pense de ça? Le truc c'est que je vais mettre.
Alors moi j'ai joué, moi j'ai fait du ladder
Ouais.
énormément ces 2 derniers jours, parce que j'ai eu 2 forfaits légendes, et comme après je vais en vacances, j'ai la Valencia, etc., j'ai vraiment avancé. Donc j'ai quand même, ce week-end là, j'ai quand même monté 2 comptes du rang 20 au rang 5 et un compte du rang 20 au rang 8. Donc le ladder, je l'ai un peu poncé. Comme à tous les débuts de saison, il y a beaucoup d'aggro, donc le méta en ce moment c'est Shaman, War Pirate, Druid Token, donc Shaman et Druid Token qui contre War Pirate, Mage qui contre Druid Token et Shaman, et War Pirate qui contre Mage, donc ça fait un peu un cercle. Et ben vous prenez ces 4 decks, ils défoncent tous vos leurs quêtes. Tous. Et c'est un peu ce qu'à une époque tous les joueurs ont dit, quand tout le monde a dit ouais, vos leurs quêtes c'est trop fort, machin, machin, c'est que tous les joueurs qui ont un peu joué voleur dans leur vie le disent, si tu veux contrer voleur, tu joues tête. T'as même pas besoin de jouer full aggro. Tu joues mage qui va tête et qui met du gel. Tu peux jouer aggro qui va tête. Enfin, tu joues juste dégâts directs. Tu joues un deck dégâts directs et tu gagnes contre voleur. Et en fait, c'est ça le nerf de voleur. C'est que voleur a un truc très bien, c'est que dès qu'il a un deck trop fort, le méta s'auto-adapte. Alors ok, ça fait un méta un peu con, mais il déboîte voleur. Et en ce moment, voleur sur le ladder, il n'existe pas. Il n'y a personne qui joue voleur. Et quand je dis personne, c'est que même les meilleurs joueurs du monde reconnus en voleur quête, c'est-à-dire Phénoméno, Tyler et Xyxo, les trois ont dit, si vous amenez voleur quête en tournoi, vous êtes un con. Pourquoi vous... Enfin, du coup, ok, la quête est trop forte dans sa mécanique, parce qu'ils veulent que les decks contrôle reviennent. Parce que dès que les decks contrôle sortent, le voleur quête sort aussi. Mais pour l'instant, voleur, il a quand même un moyen, on va dire un moyen naturel de se faire nerfer, qui est ben, jouer dégâts directs.
Voilà, donc ça c'est l'idée de. Bah, c'est un peu un contre en fait. Mais le truc c'est que moi je comprends ce nerf.
Moi
Parce qu'en
aussi.
fait, y a en fait, le problème c'est que. C'est pas ils sont pas illogiques, mais dans leur communication ils sont pas bons. Parce que le problème c'est que tous les joueurs pros ont dit voleur quête ça pose un problème. C'est que voleur quête c'est tellement fort que en fait c'est tellement fort contre contrôle que tu es obligé de jouer aggro. Et c'est là où le deck est un problème, c'est qu'en fait, le deck à lui seul, shift le méta. Et le problème, c'est que tu as déjà eu ça dans le jeu, ça s'appelait l'époque du Grim Patron, où tu avais un deck qui faisait swifter le méta totalement, et il était tout seul. Et le problème, c'est ça, c'est que, par exemple, on le voit à Shanghai,
Ouais,
c'est
enfin,
que.
à l'époque, Grim Patron, il était pas. Lui, il battait tout le monde, par contre.
Oui,
Même
c'est.
les decks qui le contraient, de temps en temps, il faisait. Au fait, j'ai un Berserker à 70 quand même, hein.
Oui, et déjà à l'époque, ils nous avaient dit, ouais, mais ça a à peine plus de 50% de victoire, ça oui, sauf que c'était ultra dur à jouer, donc forcément,
En fait,
l'environnement de tournoi. Et c'est pareil avec Voleur. C'est que les résultats du Voleur Quête en tournoi sont totalement des résultats dans la moyenne des gens, tout simplement, parce que il a pas l'air, mais ce deck, il est super technique à jouer!
Oui, et puis parce que aussi, en tournoi, comme tu sais que tout le monde va l'amener, Enfin, Voleur Quête, voilà, en tournoi, en fait, il souffre d'un mauvais win rate pour une raison simple, qui est que quand tu es le meilleur deck, soit tu es target, soit tu es banni. Donc, tu ne peux pas avoir un bon win rate parce que soit tu ne joues pas, soit tu joues que contre des mauvais adversaires. C'est imaginer que vous êtes le meilleur manieur de couteau au monde et on vous dit, bah, soit tu fais pas de combat au couteau, soit tu joues contre un bazooka. Bah ouais, mais les gars, je vais jamais gagner. Bah non, mais c'est le but. Voilà, c'est...
J'aime beaucoup la comparaison, mais c'est effectivement ça. Mais malgré tout, on le voit à Shanghai, il y a 16 joueurs, je crois. C'est, non, 12.
Ah, 16, c'est 4 de chaque contre.
Ouais, 4 de chaque. Ouais, il y a 16 joueurs. Bah, le deck le plus représenté, c'est Quest Rogue avec 11 Quest Rogue. Voilà, c'est pas la classe la plus représentée, parce que la classe la plus représentée, si je ne me trompe pas, c'est druide.
Comme d'habitude.
C'est druide, parce qu'il y a Token et Jade qui sont tous les deux très bien, donc voilà.
Tous les métas du monde.
On a 13 druides, c'est un petit peu la vie. Mais alors, on va pas se plaindre, c'est la première fois que dans un méta, on n'a pas au moins une classe qui est jouée par tous les joueurs. C'est arrivé à tous les autres trucs, là on n'a pas une classe. Mais voilà, c'est un seul deck en rogue et c'est celui-là. Et le truc c'est que du coup, ça les dérange parce que c'était pas assez interactif. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ladder, t'avais le truc genre, tu joues Rogue Quest et là, ah bah, un contrôle. Ouh, je suis tellement puissant, je fais des trucs. Oui, mais je fais des trucs. Ok, super. Et tu tombais contre aggro et tu faisais genre, bon, bah j'ai perdu. Du coup, c'était pas interactif, c'est pas intéressant.
Non, t'as pas perdu quand tu joues Rogue Quest contre aggro. T'es mal, mais t'as pas perdu. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Prep Disparition qui fait que t'as pas perdu quand même.
Crois-moi, au niveau moyen des joueurs.
Au niveau moyen des joueurs.
Le truc, c'est tu joues beaucoup dans le top ladder. Et même si je joue beaucoup moins que toi, malgré tout, je pense que objectivement, je suis capable de jouer dans ces eaux-là. Mais quand tu vois la généralité, la plupart des gens qui jouent entre le rang 25 et le rang 18.
Pas le Rogue Quest, crois-moi.
Ouais, mais arrête, je kiffe Rogue Quest, c'est trop bien.
Oui, c'est très très dur à jouer.
Ah, il faudrait jouer un peu, bref. La plupart des gens qui jouent entre le rang 25 et le rang 18, moi j'en vois des Rogue Quest et je leur vois faire des trucs, je fais genre... Mais... Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok. Et tu le vois, tu dois le voir en coaching, les gens jouent mal Rogue Quest. Du coup, quand tu joues mal Rogue Quest, tu joues contre aggro, bah t'as perdu. En ladder, à part les top ladders, un Rogue Quest face à un aggro, il a perdu. Parce que le problème, c'est que l'aggro, il peut pas se rater. Hein. L'aggro, il peut pas se rater, il va poser des trucs, il va partir tout droit. Hein.
Ah bah en même temps, il a bien appris, quoi.
Automatique, hein, donc... Donc voilà, donc ils nous ont fait ce petit nerf qui consiste en disant, bah, maintenant, il va falloir jouer 5 minions du même nom pour remplir la quête. Du coup, purement d'un point de vue technique, est-ce que c'est un gros nerf, d'après toi ?
Oui, pour une raison simple, c'est que tu ne peux plus faire ce qui faisait gagner le deck avant, c'est-à-dire la quête T4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui était ultra fort avec la quête avant, c'est qu'il y avait un truc qui s'appelle Shadow Step, et qui disait, tu augmentes de 1 ta quête pour 0 mana. C'est en gros, Shadow Step, c'était pour 0 mana, mais un compteur sur ta quête. C'est exactement ça. Hein. Du coup, quand t'avais les deux, tu commençais directement à 2 sur 4. Sachant que quand tu joues la carte, que tu l'as en main, ça fait déjà 1, t'avais juste besoin de 1 retour, et t'avais ta quête faite.
Le problème, c'est que maintenant... Le retour, il te coûtait 3, parce que c'était un autre remontoir en général. Voilà, donc,
ce qui fait que si tu le faisais sur un tour 1, et que t'avais 2 Shadow Step, ta quête te coûtait 4 mana. Pour 4 mana, 5 parce qu'il faut jouer la quête, pour 5 mana, toutes tes créatures sont des 5-5. Imaginez s'ils avaient sorti un sort... Voilà, une carte unique qui disait, tu la joues pour 5 mana. À partir de maintenant, toutes vos créatures sont de 5-5. Voilà, Twitter exploserait, Reddit deviendrait un lieu de guerre civile, il y aurait sûrement des terroristes sur ces endroits-là, enfin voilà. Et le problème, c'est qu'il y a une carte qui s'appelle Shadow Step, qui fait que c'est trop facile de faire la quête. Et du coup, en fait, ils vont juste augmenter de 1 le compteur. Mais qu'est-ce qui fait que ça... Mais augmenter de 1 le compteur, ça veut dire que t'augmentes de minimum 3 mana à la quête. C'est énorme.
C'est beaucoup. Et t'as un deuxième truc, c'est que on sait, toi aussi t'as joué Rogue Quest, tu as ces moments où avec le deck, c'est vrai que c'est pas un deck que t'apprécies.
Je déteste autant Grim Patron, je m'y suis mis très tard, Mais j'ai vraiment apprécié le côté combo. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup avec Grim Patron, c'est que c'était un deck. Grim Patron, tu pouvais déclencher très tard, en fait. C'était ça la vraie différence.
Mais tu vois, pourquoi,
Rocket, si tu pars pas direct, c'est mort, quoi.
Comme quoi, on dit que t'es le joueur aggro et t'es le joueur contrôle et moi je suis le joueur aggro. Mais au final, j'ai kiffé Grim Patron et je jouais Grim Patron de ouf, c'était mon deck préféré. Et je suis peut-être même plus joué Rocket que toi parce que moi, au début de l'extension, c'était vraiment le gameplay qui me faisait le plus kiffer. Je trouvais ça vachement cool.
Ouais, enfin, calme-toi, parce que quand tu jouais Grim Patron, moi je jouais Guerrier Contrôle, et pendant que tu joues Rocket, moi je jouais Voleur Miracle.
Donc, mais Voleur Miracle, il faut déjà avoir des... Moi, même en Druid Jad, hein, même en Druid Jad, les commissaires, ils veulent pas venir jamais. Alors, je gagne autrement, c'est pas grave, hein, mais c'est... apparemment, Druid Jad, ça veut pas. Bref, ça nous est tous arrivé en Rocket, ce moment où t'es là, genre, putain, j'ai pas mon remontoir. Ah, j'ai pas mon remontoir. Ah, et là, paf, tu le chopes. Et là, genre, ouh, et là, tu peux te dire, je peux commencer à faire des trucs. Bah là, ça va arriver vachement plus, parce que c'est plus 4 qui font, c'est plus 3 remontoirs, c'est 4 remontoirs. Et sauf qu'il n'y a pas plus de remontoirs. Du coup, ça va même arriver encore plus souvent, parce que les probabilités, c'est pas juste plus 1, genre, comme t'en as moins dans le deck, c'est beaucoup plus. Donc il y a au moins 25 à 30% de game en plus où tu vas être bloqué parce que tu peux pas la faire ta quête.
Ben moi je me demande si le bon nerf serait pas été de passer Shadow Step à 1 mana plutôt que d'augmenter le 1 le compteur de quête.
Le problème c'est que Shadow Step c'est pas tellement un souci en soi pour le moment.
Mais non, mais la carte n'est jouée nulle part ailleurs. Du coup si tu nerfs la carte, tu nerfs ça. C'est comme à l'époque de Commissaire Priseur qui avait nerf Voleur Miracle.
Oui, mais le truc c'est qu'ils veulent garder Shadow Step parce que c'est iconique totalement pour la classe.
Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Je pose juste la question. Après, c'est vrai que peut-être que le jour où la quête disparaîtra, ce nerf de Shadow Step reviendra hanter un autre deck ou des choses comme ça.
Tu vois, c'est là le problème, c'est la quête, donc ils nerfent la quête, quoi.
Ouais. Enfin bon. Donc, on s'est quand même bien planté sur les analyses.
Ah non, mais celle-ci... en fait, on a switché. J'ai réécouté toutes les analyses. On s'est pas bien planté dans les analyses. On a fait une aversion. On a fait une aversion. On a fait la quête voleur, c'est pas top, et la quête démoniste, c'est ouf. En fait, il s'est retrouvé que c'était l'inverse. Bon, voilà, c'est pas grave. Et j'y crois encore à la quête démoniste, les gars. Hein, je vous jure, avant qu'elle sorte du méta, ce sera joué.
On a 2 ans, on s'en fout, on a 2 ans, on assume.
On est bon. Moi j'assume, mais jusqu'au bout. Mais jusqu'à la fin, je dis, cette carte, elle est bien, elle est trop bien pour que pas qu'elle soit jouée à un moment. Donc voilà. Tu sais, mercredi, t'étais là, genre... Oh, c'est cool. C'est sympa. Il y a des choses qui se passent sur Hearthstone. Bon. Moi, le lendemain, jeudi, on se lève. Vers le début d'après-midi, etc. Il nous balance le truc, genre, oui, vous pouvez remporter des paquets... En votant pour la personne que vous pensez gagner à Shanghai. Je me dis, ah tiens, c'est la journée des annonces. Il dit ça, c'est l'annonce de la journée. Et là, out of nowhere, comme nous avait dit Ben Brown en lui disant que l'annonce de l'annonce arrivait, à 19h, il nous balance un « Bon bah, vendredi, dans une semaine là, soyez là à 4h du matin, on va annoncer la prochaine extension. » Ah! Comme dirait Denis Brognard, ah!
C'est tôt. C'est tard. C'est... Selon comment vous le...
Ouais, alors déjà, cool. Parce que qui dit nouvelle extension dit...
Nouvelle extension.
Et qui dit surtout nouvelle vidéo. Hein, deux revues de cartes.
Ouais.
Et sur laquelle on va se tromper cette fois-ci, on verra bien.
En même temps, on nous a demandé de plus nous mouiller. Alors moi, je veux bien moins me tromper, mais du coup, on fait des avis moins tranchants.
C'est même plus des avis moins tranchés, des avis moins tranchants. C'est nous, on balance tellement. Vous voyez, les gars, on les découpe. On a des avis tranchants. On a donc la lourde tâche. Enfin, non, pas Den, parce que Den, comme vous le voyez ici, Den va partir en vacances. Il vous l'a dit. Et du coup, Den ne sera pas là. Du coup, je vais être tout seul à me lever à 4h du matin pour regarder l'annonce, commencer à préparer les cartes et à faire une review.
Mais voilà, Mais non, il va attendre. Voilà, je ne suis pas là de mardi, donc du 4 au 11. Donc vous aurez la vidéo qui sortira le 12, calmez-vous. Et moi, le 5 au matin, tranquillou, en mangeant mon petit pain au chocolat avec mon jus d'orange, eh ben, je lirai mon Skype et les 973 messages que Volvi m'aura laissés à base d'onomatopées dans la nuit.
Ça arrive.
Sur les 973, il y en a à peu près 400 qui seront Den, putain! Voilà, pour vous donner une idée de nos conversations Skype.
Ah, et avec un peu de chance, et je l'espère, il y aura un... Elle est trop bien, la carte démoniste! Mais voilà, du
Ah,
coup, nouvelle
il
expansion.
y en aura un, parce que Volvi est un grand fan du démoniste. Après, à savoir, est-ce qu'elle sera vraiment bien?
Donc voilà, on en est là. Il y a pas mal de rumeurs. Comme à chaque fois, on nous parle de Icecrown Citadel. Il y a des fichiers qui ont été rajoutés en jeu. Il y a des noms de domaines qui ont été achetés, notamment le nom de domaine Le Retour du Roi Lich qui a été acheté. On en avait parlé un petit peu. Est-ce que ce sera ça? On sait pas. Ce qu'on sait, ça a été annoncé par Ben Brode, il l'a lâché dans le Q&A, c'est que c'est l'extension d'août, donc il va sortir en août. Au vu de la manière dont ils sortent les extensions depuis ces derniers temps pour coller avec les HCT, avec les saisons, ce sera soit tout début août, soit fin août. Vu ce qu'ils ont fait sur la dernière extension où ils ont annoncé, ils ont commencé à faire les previews et ça a été genre... Très limité dans le temps en fait le reveal de cartes. On n'est pas à l'abri d'avoir l'extension début août vu que bah on a eu les extensions début de mois hein. On a eu les deux dernières extensions c'était début de mois juste au début de la saison pour que justement la saison elle soit sous une nouvelle ère. Gadgetzan c'était sorti genre le 1 je crois. Un'Goro c'est sorti le 4, je crois, si je me trompe pas, Den, tu m'arrêtes. C'était sorti genre le 4 avril?
6 avril, il me
6
semble.
avril. Donc voilà, début d'extension, début de mois, donc on va voir. Ben Brown nous dit, elle va être ouf.
Ouais, en même temps,
Il le dit.
si le mec qui crée l'extension dit pas elle est ouf, on a vraiment du souci à se faire.
Il le dit à chaque fois. Donc, moi je veux bien le croire, mais comme un Normand, j'attends de voir pour... voilà. Mais c'était très très bien, ça va être très très dur de faire une extension aussi bien que N'Goro, parce que N'Goro c'était vraiment bien.
N'Goro, c'était vraiment. En fait, le truc de N'Goro, c'est que dès le début, ça a été bien équilibré. Alors, il y a peut-être aussi les joueurs qui ont participé et qui ont trouvé les bons decks dès le début, etc. Et qui ont très vite fait du deck building, etc. Il y a aussi les joueurs, évidemment, qui ont une grosse part dans la réussite d'une extension. Mais peut-être que tous les facteurs et les étoiles se sont alignés dans le ciel pour N'Goro. Mais c'est vrai que si ça sort à peu près au même moment d'août. Que c'est sorti en avril et qu'on passe le même mois d'août qu'on a passé au mois d'avril, big up les gars, parce que si vous arrivez à être constant dans le temps et à faire autant de hype que ça à chaque fois, et ben Hearthstone ça va devenir un sacré putain de jeu.
C'est ça, donc on a une petite image avec des silhouettes. Autant vous le dire, la silhouette centrale, ça ressemble sacrément de loin à un Arthas. Hein, on va pas se le cacher. Voilà, il y a un orc à côté. Enfin, ils teasent là-dessus. Je sais pas s'ils vont pas nous faire. Parce que voilà, Blizzard, ils sont habitués à faire des blagues. Nous, moi et Eden, on joue à Overwatch. Et je peux vous le dire, depuis le temps que tout le monde dit ça va être le nouveau perso, c'est Doomfist. Le nouveau perso, c'est Doomfist. Le nouveau perso, c'est Doomfist. Je peux
Les
vous
gens,
dire.
ils arrivent même plus à dire Doomfist, tellement il leur manque de la salive. Maintenant, ils disent Doomfist.
Doomfist!
Ils en peuvent plus, quoi. Les mecs, ça fait un an et demi qu'ils sont là en mode Doomfist! Ils ont fait des manifs, ils ont tout fait. Et depuis, ils ont sorti Orisa, ils ont sorti Sombra. Et à chaque fois, fois ils sont là, mais s'il vous plaît, oui, quand même. On aimerait bien avoir raison à un moment, parce que ça fait 6 fois qu'on se trompe et au bout d'un moment on n'a plus les boules noires, il n'y en a plus dans la boîte. Et on est obligé de tirer le bon.
Et en plus Blizzard les trolls, c'est-à-dire que par exemple
ils font des fausses annonces sur Doomfist, bordel de merde.
Ils ont fait venir genre alors en fait Terry Crew il est allé dans les studios parce que c'était chez Activision, en fait c'était chez Activision Blizzard, mais du coup il était pas vraiment chez Blizzard, c'était parce qu'il a fait une pub pour un jeu qui n'a absolument rien à voir, qui a l'air tout pourri, je me rappelle plus du nom, SmackDown 3 je crois, ou un truc comme ça, enfin un truc pourri. Terry Crew il est venu faire ça et là ça, sur Twitter ça l'a fallu genre Doomfist, ils ont commencé pour la reveal de Orisa à faire le coup du oh là là regarde, il y a un robot, il est planté dans le mur, genre il y a eu un gros impact de points et il y a Doomfist qui était dans le payload qui a été volé, mais qu'est-ce qui se passe, c'est Doomfist, tout internet c'est Doomfist, et là Orisa un robot, ah donc Blizzard a l'habitude de troller. Donc franchement, quand tu vois l'image, la seule image teaser, le milieu c'est totalement la silhouette d'Arthas, ce truc comme ça un peu à forme où t'as une épaulière comme ça, il est plus grand, tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est le roi Lich, mais ça peut totalement être juste un paquet de carton et en fait ils vont nous faire carton stone, hein. C'est ils sont capables de tout, alors on attend vendredi et on va voir ça. Donc voilà, ça va être cool. On l'espère que ça va réussir aussi bien que N'Go.
Bah, moi je le souhaite parce que comme mon boulot c'est de coacher sur Hearthstone, c'est bien si le jeu marche.
Oui.
Personnellement en tout cas.
Moi pareil, hein, vu que petit peu ce que je fais dans ma vie, c'est d'organiser des tournois et de faire de l'événementiel sur Hearthstone. Hein, si Hearthstone ça marche, on n'est pas mécontent.
C'est mieux de faire des tournois avec des gens. Hein.
Oui, c'est mieux. Du coup, ça c'était le jeudi, mais là vendredi, boum, vendredi Q&A. Là, nos amis, notre ami Ben Broad et McDonald's, qui est aussi un des game designers, un des top game designers sur Hearthstone, qui sont venus répondre à des questions. Rien de. Si vous n'êtes pas intéressé par le game design, c'était pas très intéressant pour vous. Si vous vous en foutez, vous avez juste envie d'avoir des annonces de cartes, des machins comme ça.
Si vous êtes un pur joueur, c'était pas le Q&A regardé en effet.
Voilà. Mais malgré tout, ils ont dit pas mal de choses intéressantes. Ils ont fait quelques petites annonces, hein, pas grand chose. Ils ont parlé de pourquoi ils ont nerfé le Rocket, on en a parlé avant, parce que c'était oppressif, etc. Ils ont dit qu'ils regardaient avec attention le Druid Jade, parce que le problème pouvait être la même, mais qu'au final c'était beaucoup plus équilibré que ce que pouvait être le Rocket. Du coup, ils se sont lâchés que l'extension c'était août, ça on l'a dit.
Bon, après ça tout le monde le savait, hein. Il y en avait quelques-uns qui pensaient que ça pouvait sortir en juillet, mais sinon fin août, et on peut à peu près déjà tabler que celle d'après ce sera entre mi-novembre et début décembre. Enfin ça voilà, les dates d'extension, c'est pas on n'est pas en train de tomber de nos chaises quand ils annoncent les dates d'extension. Le vrai truc marrant, c'est de deviner le thème, de deviner de quoi ça parle, les choses comme ça quoi.
Voilà. Ils ont annoncé quoi ? Ils ont annoncé quelques changements pour l'arène. Ils ont annoncé du changement pour l'arène, ils vont changer quelque chose dans les classes, ils vont réduire de 50% l'apparition du Vicious Fedling, le ptérodactyle, le ptérodactyle vicieux, parce que c'est totalement OP, parce que vous l'avez vu, hein, alors cette carte, je suis particulièrement content parce que on est les seuls à avoir call que c'était OP.
De quoi ? Le vicieux ?
Le vicieux.
Bah d'ailleurs, oui, t'as vu qu'en arène, voilà, c'est de ça que tu disais, j'imagine.
Voilà.
C'est qu'en arène, il va être vu 50% de moins, parce que, bah, tout simplement, le mode arène, à l'inverse du standard...
t'as beaucoup moins de sorts pour tuer un truc direct.
Voilà. On choisit pas forcément ses removals, et le Vicious... Par contre, on choisit forcément Vicious Fledling quand il apparaît dans les trois cartes. Et voilà, je sais pas, les joueurs qui jouent depuis longtemps, à une époque, en arène, il y avait le Worgen. Qui quand il s'enrage devient une 4-2 furie des vents si vous l'enragez avec un dégât, ou une 4-1 si vous l'enragez avec deux dégâts, et qui du coup était capable de tuer un match tout simplement parce que si tu le tuais pas en deux tours tu prenais 16, et quand au tour 5 t'as pris 16 par une seule créature, en général ça sent le pâté pour ton match. Et ben le Fledling il fait pareil, sauf qu'en plus il gagne de la vie, des boucliers divins, il se cache de la vie et de l'attaque, que de l'attaque, des fois il a du Defratel qui arrive, des fois il est inciblable, voilà, en gros il regarde le Worgen comme ça, il fait petite bite, va.
Mais en fait,
toi tu mettais que 80% des dégâts, mais moi mon mec, il arrête de jouer derrière, il fait que aller tête, et c'est bon, je gère, c'est au tour 5, je suis un tour 7, quel est le problème ?
Moi je l'ai vu à dernière arène. Premier tour, mon adversaire il m'a fait innerver Vicious Fiendling et j'ai fait ok et j'ai perdu. C'est instantané.
Voilà. Bah en fait, dites-vous qu'il y a des plays qui, en construit, vous perdez le match dans 80% des cas. Voilà, Innervate Fledling, voilà, ça a été calculé, hein. Il y a un mec qui s'est embêté à le faire. Je crois que ça, tu gagnes 82 ou 83% des matchs où tu fais Innervation Fledling. Alors, je sais pas quelle est la sortie ensuite, si ça se trouve, dans 50% des cas, c'est aussi parce que t'es un druide aggro et que du coup, bah, après avoir fait ça, tu fais tour 2, tour 3, tour 4 de Living Mana et tu gagnes le match même si le mec a géré ton Fledling au final. Mais voilà, tu gagnes plus de 8 matchs sur 10 quand tu fais Innervation Fledling en construit. Imaginez en arène maintenant.
Voilà, c'est quasiment 100%. Ah, on va le dire. T'as un petit pourcentage, tu vois, le truc qui reste. Tu vois,
t'as le mec à qui on a proposé 4 Frostbolt et qui en a une dans la main, quoi. C'est tout ça. Il n'y a que lui.
Donc voilà, ils ont annoncé ça. Ce qui est assez logique, ils ont parlé un peu du fait que le ladder va changer. On le sait, ils continuent de bosser dessus parce que le ladder c'est dégueulasse. Moi je vous jure, les gens, depuis Un'Goro, Dan le sait. L'année dernière, l'année du Kraken, j'ai eu un vrai ras-le-bol du jeu. Et maintenant, j'ai comment ça s'appelle j'ai, j'ai un manque du jeu, c'est-à-dire que j'ai plus beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire, etc. Mais dès que je peux, maintenant, je fais des parties et je prends vraiment plaisir. Je fais les tournois au bar, etc. Je prends vraiment du plaisir à jouer à Hearthstone. Mais le ladder, c'est toujours un environnement qui est gonflant parce que c'est pas un environnement fun. C'est pas ouf le ladder, ça fait chier tout le monde. Et ils veulent le changer et ça, c'est cool. Donc. Je sais pas pour toi, parce que toi, Dan, tu joues énormément en ladder, mais...
Trop.
Oui, trop sûrement, mais c'est pas fun. Ce ladder, il passe trop de temps. C'est trop long, ça demande trop de temps. Ce n'est plus du farm au bout d'un moment, c'est même
en
plus...
En fait, le vrai problème du ladder, c'est que ton objectif, en fait, tu ne l'atteins jamais. Parce que soit ton objectif c'est un rang qui n'est pas le rang légende, et du coup, ok, tu peux t'arrêter de jouer. Tu peux juste t'atteindre ton rang et tu fais ok, c'est bon, j'ai mon coffre, ou j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, ou voilà, t'es juste content de toi. Et en plus, maintenant, avec les paliers, une fois que t'as atteint le palier, t'es bon. Le problème, c'est que si ton objectif c'est quelque chose au rang légende, tu ne peux pas t'arrêter de jouer. Tu n'as pas le droit de t'arrêter de jouer. Pourquoi? Parce que à la fin de la saison, déjà, tu perds tous tes rangs si tu t'arrêtes de jouer. En milieu de saison, c'est pas très grave, mais en fin de saison, il y a quelqu'un qui a fait l'expérience, un joueur Zengfas, il y a 4 ou 5 saisons, il était 3e Europe. 3e Europe, c'est pas le boulanger, quoi, le mec. À 2 jours de la fin de la saison. Il a dû arrêter de jouer parce qu'il partait en vacances. À la fin de la saison, Volvi, à ton avis, il était combien?
Je sais pas, il devait être dans les 300-400?
Non, quand même, abuse pas. Il était 98.
Ah, c'est pas tant que ça.
Ouais, enfin, tu passes de 3e légende à 98e.
Mais tu vois, c'est pas tant que ça parce que je me rappelle de l'époque avant l'année du. Pardon, en plein milieu de l'année du Kraken, où des fois t'avais des gens qui perdaient genre 70 places en 2 heures dans le dernier jour de la saison. On a eu un ladder encore plus débile qu'aujourd'hui, hein.
Oui, mais ça c'était après le rework. Ouais. Donc il y a quand même des trucs. Mais voilà, c'est le problème du ladder actuel, c'est que tu n'as pas le droit de t'arrêter de jouer. Ça prend énormément de temps d'arriver à tes objectifs. C'est extrêmement punitif d'être un joueur top 100 dans Hearthstone. Et il y a d'ailleurs eu une polémique. Enfin, c'est pas une polémique, mais j'entendais hier, j'ai regardé le stream de fin de saison de Phénoméno, qui est énormément proche de Tyler, qui est le deuxième joueur en points HCT pour le Last Call, et de Sintolol, qui est le premier joueur en points HCT. Et il disait, les deux sont dépressifs. Ouais. Parce qu'ils passent tellement de temps sur l'ordinateur, que Sintolol, il en a juste marre d'Hearthstone, mais comme il est premier, il ne peut pas arrêter. Et Tyler, c'est encore pire, parce qu'il est deuxième. Et au Last Call, c'est le premier va au World, le deuxième, il a une sucette. Hein. Il n'y a rien. C'est winner takes all pour le last call des championnats du monde. Et ça veut dire qu'il y a des joueurs qui jouent là-dessus, ils jouent leur vie dessus. Ils jouent leur carrière, ils jouent leur salaire de l'année peut dépendre de ça. Et les mecs, du coup, ils en deviennent mais dépressifs parce que mentalement, c'est extrêmement dur, non seulement de tenir la pression que ça représente, mais juste de jouer à Hearthstone. On parle de 12 heures, 13 heures par jour, minimum.
C'est gargantuesque. Je vous jure, juste une fois, si vous avez le temps, si vous n'avez pas trop de trucs, etc., essayez de vous prendre une journée et d'essayer de jouer 12 heures dans la journée. Un jour.
Et
Rien qu'un
attention,
jour à Hearthstone, hein.
et quand on dit 12 heures au top niveau, c'est 12 heures où, quand on est dans les 5 derniers jours de saison, perdre une game, ça peut ruiner ta vie.
Voilà, alors vous allez nous dire, oui, mais moi je suis en 17, je peux pas jouer au top niveau. C'est pas grave, dites-vous
Mais
dans la
alors,
tête,
faites
essayez de
ça. Non,
jouer
mais.
juste tous vos matchs à
Voilà.
fond.
Non, non, fais juste ça. T'es rang 17, ok. Et ben, un jour, tu dis, ok, aujourd'hui, je ne m'arrête pas tant que je suis pas rang 15. Voilà. Et tant que tu n'arrives pas au rang 15, tu n'as pas le droit d'arrêter Hearthstone. C'est ce que ces mecs vivent tous les mois. Sauf que eux, bah c'est top 10 ou top 25 sur le jeu entier face à des millions de compétiteurs.
C'est terrible. Voilà, vous jouez un jour 12 heures à Hearthstone, parce que 12 heures c'est beaucoup, on se rend pas compte,
Voilà.
mais
Et vous vous
12 heures ça
fixez
veut
un
dire.
objectif. Voilà, vous vous fixez un objectif légèrement au-dessus de ce que vous atteignez d'habitude.
Voilà. Et vous allez voir, à la fin de la journée, vous allez plus en pouvoir du jeu. Je vous le jure, vous allez en avoir plein les baloches du jeu. Et vous allez vous dire, putain, demain, je vais à la plage. Sauf que dites-vous que pour eux, ça recommence. Et ça recommence comme ça 30 jours dans le mois.
Non, quand t'es très bon,
Quand t'es
quand tu
très
fais des
très bon.
HCP, quand t'es très bon, tu passes légende. Donc maintenant, moi, ça me prend entre 3 et 6-7 jours si je prends mon temps. Voilà, donc je pense que pour des mecs comme ça doit prendre 3 jours, on va dire.
Oui,
Je
mais
pense.
après, il faut compter qu'ils ont
Voilà.
le ladder, mais ils
Ensuite,
ont aussi le training pour les tournois.
non mais ensuite, il y a l'Open Cup.
Oui.
Faut gagner ton Open Cup. Donc, si t'es chanceux, tu la gagnes tôt. Voilà, hier, Phénoméno a gagné la première du mois. Donc, bravo à lui, il peut arrêter de jouer pendant 26 jours. Mais voilà, mettons, tu gagnes ton Open Cup, on va dire, pour un joueur de ce niveau-là, si ta chance est à peu près moyenne, je pense que tu es capable de la gagner dans la première semaine si t'en fais une tous les jours. Je
Après, tu sais,
pense.
t'as des joueurs excellents qui ont attendu genre l'avant-dernier jour pour gagner une Open Cup, hein.
Voilà,
On
mais
a vu
d'ailleurs, en
des.
termes. On parle de chance average. Voilà, tu te fais pas high roll tout le temps, t'high roll personne. Je pense qu'il te faut une dizaine de tentatives pour gagner une Open Cup à 200. Donc on va dire que tu la gagnes, allez, avant le 12. Ok, donc le 12 du mois, t'as gagné ton Open Cup, t'es légende. Maintenant, on va faire un truc marrant. C'est qu'eux, ils sont légendes sur trois serveurs. Eh oui, ils sont légendes sur Amérique, Asie et Europe. Donc, t'as gagné ton Open Cup et t'es légende sur un serveur. Bon, eh ben maintenant, tu grindes tes deux autres serveurs. Donc, pareil, on va dire ça prend 3 jours. On est le 18 du mois. T'as fait tous tes objectifs. Bon, eh ben tu dois te mettre top 100 sur les 3 serveurs ou top 50. Parce que si tu fais une pause alors que t'es 200e, quand tu reviens une semaine après, t'es 800e et tu passes ta vie sur le jeu. Et là, on parle plus de 12 heures, on parle de 20 heures par jour. Donc, tu te mets top 50, ok? On est le 20 du mois. T'es top 50 sur 3 serveurs. T'as gagné ton Open Cup. Eh ben là, t'as le droit maximum à 5 jours de vacances. Parce que le 25, faut y retourner. Parce que à partir de 25, toutes les games comptent.
Et le truc, c'est que là, tu dis ça, mais imaginons, on a dans le mois, il y a genre deux events.
Voilà,
Genre.
et ça, c'est s'il n'y a pas de DreamHack, s'il n'y a pas
Voilà.
une seed story, s'il n'y a rien.
T'as une DreamHack, une Seed Story. À chaque fois, ça te prend 4 jours, 5 jours. Bah, tu l'as dans le baba.
Alors, quand on dit 4 jours, 5 jours, c'est juste pour l'event, hein.
Oui!
On parle pas de la préparation sur le jeu. On parle pas des trainings que tu rajoutes ou voilà, ou c'est tu fais tes voilà, peut-être sur les 12 heures du coup, bah t'en fais que 8 de ladder et puis 4 d'entraînement.
Vous voyez, moi,
Mais
il y a un
sache.
truc, mais les professionnels français le font, les gens comme Tixuti, comme Kallax, comme nos amis de l'Arma Team, etc. Et moi, je suis incapable de faire ça, et c'est là où je me dis que je peux plus être joueur pro. J'adore jouer au jeu, j'adore préparer des trucs, mais je peux pas être joueur pro, en tout cas pas tant que ça marche comme ça. C'est que les gars, ils sont en tournoi, ils font leur tournoi, ils jouent leur tournoi, le tournoi finit. Ils partent direct pour faire des Open Cup ou pour faire des. Je veux dire, voilà, moi, ça on l'a vu au BGF, des joueurs qui sont fait éliminer, du coup, bah, ils sont partis tôt au lieu de rester, prendre du temps, boire un verre, etc. Ils ont fait, bah, non, faut que je rentre à l'hôtel parce que j'ai une Open Cup à 18 h. Et qu'il faut que je le fasse. Et c'est horrible. C'est une vie plue. C'est même le moment, moi mon plus grand délire, j'adore partir en LAN, parce que j'adore partir voir les potos, traîner avec Den, on va dans des bars, on va faire les cons, on va bouffer jusqu'à s'en faire péter la panse, on va jouer au Munchkin, enfin voilà quoi, on se tape des délires.
Voilà, quand nous on va en tournoi, moi j'ai la chance que mon métier c'est pas joueur, c'est coach. Voilà, hein, pour vous donner une idée, entre hier et aujourd'hui, j'ai fait 35 heures de coaching. Si on part de vendredi minuit à dimanche minuit, je fais 35 heures de coaching. Voilà, j'ai fait une semaine normale en 2 jours. Ben, quand moi je pars en week-end en tournoi, en fait, moi les tournois c'est ma récompense. Il y a des joueurs pour qui les tournois c'est leur métier. Imaginez, voilà, les gens qui bossent dans les bureaux, c'est comme si quand vous allez en tournoi, vous allez en séminaire. C'est vous asseyez sur une chaise, vous écoutez ce qu'on vous dit et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce qu'il y a toute l'entreprise autour de vous et la moindre connerie que vous allez faire, tout le monde le sait pour les 5 années à venir.
Voilà, c'est ça, donc c'est.
Je dramatise un peu, mais...
Donc on s'est écarté, mais ce changement du ladder, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait, et j'espère qu'ils vont pas se le rater, parce qu'il y a des ladders qui sont mieux. Il y a plein de jeux avec des meilleurs ladders. Au niveau de League of Legends, le ladder est mieux. Le fait qu'il y ait un espèce de système, c'est pas vraiment des BO, mais que tu aies un espèce de système de BO pour pouvoir monter ou descendre d'une ligue. Le fait que tu aies des équilibres, le fait que tu aies un remake, enfin un retour à zéro qui soit pas si violent et pas tous les mois. Il y a plein de choses à faire et ils peuvent
Ça,
améliorer ça.
il faut arrêter quand t'es légende, tu retourneras en 16. En fait, c'est juste une perte de temps pour la
Oui.
majorité. On va dire pour le top 1000 des légendes, tout ce qui se passe du rang 16 au rang 5 est une perte de temps. Et c'est honnêtement, on ne joue pas. Moi, personnellement, là, voilà, j'ai passé deux comptes rang 5 aujourd'hui, je n'ai pas joué. J'ai grindé. J'ai pris un deck avec lequel je suis fort, qui est fort dans le méta. Et voilà, j'ai lancé mes cartes au fur et à mesure parce que
Mais tu vois ce qui...
J'ai fait que répéter des situations en boucle pendant des heures et des heures, mais je n'ai pas joué à Hearthstone, j'ai grindé Hearthstone.
Le truc, c'est que il pourrait faire un truc, par exemple, maintenant dans les fins de mois, il y a quoi? Il y a 30 000 légendes à peu près?
Non. Il y en a 10 000. Allez, sur les gros mois, il y en a 15. Le maximum, je crois, c'est 18 000 le record.
C'est 18 000 le record, je pensais que c'était plus.
Non, ils sont jamais allés à 30 000. Faut pas abuser. Peut-être qu'il y a eu des 20 000 en fait, je sais pas,
Mais
mais.
je crois, parce que
En même temps,
je dis.
c'est vrai qu'il faudrait regarder les chiffres, parce que moi je suis jamais descendu sous les 3 000, donc c'est vrai que j'ai jamais la possibilité de rencontrer un mec qui était à 15 000 ou à 16 000, quoi.
Parce que les fins de saison, surtout maintenant qu'on a un comment s'appelle un système avec des paliers plus réguliers, ce qui fait que tu as quand même plus de gens qui montent. Ça fait quand même pas mal de gens, hein. Il y a de plus en plus de gens. Je crois que 20 000 ça a été dépassé. Je suis quasiment sûr que 20 000 ça a été
Oui,
dépassé.
peut-être le mois où ils ont mis en place les paliers, il y en a eu énormément, ouais, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
Je sais pas. Je
Mais
sais que la saison dernière, le mec le plus bas que je connais, il a fait 9 000 et quelques.
tu vois, peut-être que c'est tout con, tu vois, mais qui pourrait mettre, tu vois, pour chaque millier de légendes, bah, en fonction du millier dans lequel t'es, tu gagnes des étoiles. Par exemple, si t'es top 1000 et que t'as 30, que t'as, tu vois, on dit une connerie, que t'as 20 000 légendes, bah, tu gagnes 20 étoiles. Tu vois, ça te fait gagner 4 rangs, ça te fait gagner l'équivalent du rang 1 au rang 4. Déjà, ça va te réduire le temps, tu vois. Ou même peut-être plus, tu vois, tu peux aller carrément plus, et qu'après, une fois que t'es dans les 1000, pour chaque centaine que tu passes, tu gagnes genre 2 étoiles de plus. Tu vois, que t'es des gens en fait qui repopent légende. Quand tu finis premier légende, quand tu finis top 100 légende, tu devrais être repop légende et te foutre sur la gueule direct avec des gars forts.
Mais le vrai problème de ça, je le comprends, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, mais le vrai problème de ça, c'est que si les mecs finissent top 100 légende, repop légende, les mecs ils jouent pas pendant 15 jours.
Ouais, t'as le truc. Donc, c'est, vous voyez, c'est complexe comme problème. Donc, on
Mais
va
après,
laisser.
c'est pas des mecs qui joueraient plus parce qu'ils feraient des Open Cup. Mais du coup, en fait, enfin, dans un sens, ce serait une super bonne idée parce que du coup, ça ferait vraiment une différence entre joueur de ladder et joueur de tournoi, puisque tu passerais moins de temps en ladder et tu pourrais plus te concentrer sur les tournois. Et du coup, il y aurait vraiment deux angles où, genre, les 15 premiers jours du mois, ce serait du tournoi et les 15 jours d'après seraient du ladder, par exemple. Ce qui serait normal dans la vie d'un pro où il faudra apprendre à diviser, à catégoriser, etc. Mais en même temps, ça voudrait dire aussi que pendant les premières semaines de ladder, ben les rangs supérieurs seraient totalement abandonnés.
C'est effectivement. Mais voilà, vous voyez, donc c'est plein de problèmes un peu complexes, mais voilà. Donc c'est à peu près tout ce qui a été dit dans le Q&A. Ils ont parlé de design. Si vous êtes intéressé par le design, vous allez retrouver l'interview entière. Mais voilà, au niveau des annonces, ils ont rappelé qu'il y aura que la prochaine extension, ce sera pas seulement une extension, mais ce sera une espèce d'extension aventure avec des missions à faire, des paquets à gagner en faisant des missions.
Comme ils avaient promis,
Voilà.
y aura un vrai contenu interactif dans l'extension. Donc ça y est, normalement, ce sera la première du nouveau genre extenventure
Voilà.
avant-tension.
On va voir mercredi, est-ce qu'il va y avoir un nouveau panneau, est-ce qu'on va avoir un nouveau mode de jeu qui va s'afficher quelque part, est-ce que ça va être des missions, est-ce qu'on va gagner des cartes, est-ce qu'on va gagner des boosters, est-ce qu'on va peut-être pouvoir level up des cartes, je sais pas. Enfin, ça peut y avoir plein de trucs et sûrement ils vont tout annoncer, l'annonce de l'extension plus que les nouvelles cartes, c'est vraiment comment ils vont gérer ce système qui est intéressant. Donc voilà, ils l'ont rappelé et c'est à peu près tout. Et du coup, dernier truc sur l'actualité Hearthstone qu'on a eu annoncé hier, c'est qu'ils vont nous remettre dans
Magasin.
le magasin. D'ailleurs, je crois que c'est remis. On peut actuellement
Je vais vérifier, tiens. Finis ton annonce et moi je vérifie, comme ça je te dis.
Les paquets libres, c'est-à-dire tous les paquets qui ont disparu du shop, tout simplement parce qu'ils ne sont plus jouables en standard. La malédiction de Naxxramas, Gobelins et Gnomes, le Mont Roche Noir, le grand tournoi et la Ligue des Explorateurs. Donc,
La Ligue des Explorateurs, il n'y a pas de booster, hein, c'était une aventure.
oui, non, mais je veux dire, les aventures et boosters, parce que pareil,
Bah, du coup, tu as oublié, tu as dit Roche Noire.
j'ai dit Roche Noir, j'ai dit Naxxramas.
Ah oui, c'est vrai. Oui, bah, d'accord, alors c'est moi qui ai mal écouté, pardon.
J'y suis, j'y suis.
Attends, je suis connecté au jeu, je regarde, tiens, si on peut les acheter.
Le. C'est vachement cool pour les gens qui ont commencé Hearthstone un peu plus tard.
On ne peut pas.
On peut pas encore, donc ça va être à arriver
On peut, non,
bientôt.
on peut acheter que Karazhan et les quatre types de paquets
Ah,
actuels.
mais attends, c'est peut-être. Si, 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 si. Je peux te. Ah, non, non, non. Parce qu'ils ont dit que c'était sur la boutique Blizzard. Je suis allé vérifier si c'était que sur la boutique, tu vois. Peut-être qu'ils l'auraient pas mis en jeu. Tu vois, genre. On met pas le truc en jeu comme ça, les gens se trompent pas et achètent pas directement en jeu à quelque chose qui est plus jouable. Mais non, non, c'est pas le cas. Donc oui, moi je trouve ça sympa tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire Naxxramas, de faire Roche Noire, etc. Et c'était quand même vachement cool. Les aventures, le principe des aventures était cool et le fait de plus pouvoir y jouer, le fait de plus pouvoir les acheter, c'était peut-être un peu dommage. Les extensions, je suis pas sûr que ce soit très utile. C'est vraiment bien pour les aventures en fait, parce que par exemple, au grand tournoi, excuse-moi, mais est-ce que tu connais un gars qui va vraiment aller acheter des paquets de grands tournois? Si vous nous écoutez et que
En
vous êtes
fait,
un nouveau joueur,
moi.
n'achetez pas des paquets de grands tournois. Hein?
Bah, si,
Dans le
y
grand tournoi, il y a trois bonnes cartes, vous allez les crafter.
a. Ouais, crafter Totem Golem et.
Voilà,
Moi, par
crafter
contre.
Totem Kraken et après partez. Regardez la classe chaman de grand
Si vous voulez,
tournoi,
voilà.
mettez des trucs.
Vous prenez Kraken, vous prenez le Python du Tonnerre, la 3-6. Et voilà. Après, c'est bon. Vous avez les. Et vous prenez aussi. Non, la 3-2, elle s'est fait nerf, donc il n'y a même pas besoin.
Voilà, tout ce qui a exaltation, vous oubliez, ça ne marche pas. Et voilà, les
Voilà.
trocards
Non, par contre, moi,
légendaires.
quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'ils mettent en place là-dessus, c'est l'achat de cartes uniques.
Justicar,
Oui, crafter Justicar.
vous craftez Justicar, voilà, c'est tout. Mais oui, donc voilà. Tu disais des cartes uniques, que veux-tu dire par
Bah,
là?
tu peux crafter des cartes uniques, tu peux les crafter.
Oui.
J'aimerais bien que dans la boutique, pour les anciens trucs, pour les joueurs qui ont les cartes depuis longtemps mais qui ne peuvent pas le faire, tu puisses acheter des cartes. Quitte à ce que ce soit au prix du booster, hein, tu mets genre, mais tu choisis ta carte. Genre, j'en sais rien, moi, une commune ça coûte un booster, une rare ça coûte deux boosters, une épique ça coûte 5 boosters, et une légendaire ça vaut 10 boosters. Mais que tu dises, pour telle somme, j'ai 100%, j'ai cette carte. Et au lieu des poussières, en fait.
Oui, tu pourrais l'avoir, limite, tu pourrais limite l'avoir pour un peu moins cher. Tu vois, tu pourrais l'avoir pour moins cher avec une valeur en poussière limitée, tu vois. Et parce que c'est des anciennes extensions, c'est plus jouable, mais tu pourrais effectivement, comme il y a un marché de l'occasion dans Magic ou des jeux comme ça, hein, où à part quelques cartes limitées qui sont ultra fortes et qui valent la peau des roustons. Dès qu'une extension sort du standard, les prix des cartes baissent énormément. C'est à part la carte qui était vraiment la star, toutes les cartes d'une extension, elles perdent 80% de leur valeur le jour où l'extension sort
Ouais,
du type 2. Enfin,
ou
c'est plus
qu'ils
le type 2
fassent
maintenant, mais.
une promo idiote, ou genre que ouais, chaque extension ils mettent genre une carte emblématique, et genre mettons pour célébrer leur retour, genre t'achètes une carte du grand tournoi, enfin un paquet du grand tournoi, on t'offre immédiatement Justicart, t'achètes un paquet Goblin et Gnome, on t'offre
Ouais, tu vois,
Docteur Boom, un truc du genre
il
quoi.
pourrait faire des trucs comme ça, tu vois, un paquet, genre une sélection de cartes. C'est un peu comme ça existe sur d'autres jeux de cartes, des jeux de cartes physiques comme les cartes comme Yu-Gi-Oh! Ou des choses comme ça, des mini-paquets. Tu vois, pour le Wild, au lieu de remettre tous les paquets comme ça, ils auraient pu faire un paquet le Wild, un Booster Wild en fait. Un Booster Wild où en fait il y a une sélection des meilleures cartes de Wild.
Booster Wild.
Tu
Après Booster Rhymes,
Buster
Booster
Wild,
Wild.
Booster Wild. Mais tu sais, un truc, tu sais, on l'a vu, t'as joué à Yu-Gi toi aussi, tu vois, il y avait les Premium Packs, où c'était les cartes d'ancienne extension qui étaient plus dispo, et ils te mettaient les meilleures cartes. Tu vois, des boosters vraiment stack, mais qui sont pas jouables, tu vois, où t'enlèves toutes les cartes pourraves. Vous savez, toutes ces cartes sans texte, les Ultrasors, les Manny et Diego, les trucs horribles, les cartes
Les
dégueulasses.
Lego, quoi, on en est là.
Alors, on en est là. Ils pourraient faire un truc comme ça, ce serait sympathique. Là, ils font comme ça, bon, ça leur demande moins de temps de. Parce qu'effectivement, sortir un truc premium, bon, bah. Prends les cartes et tu les imprimes. Là, ça leur demande un petit peu de développement, un nouveau design. Bon. Écoutez. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. C'était long, mais c'était bon. On avait beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Eden?
Non, non, on a beaucoup beaucoup parlé aujourd'hui, on était inspiré, on avait envie de parler aussi peut-être,
Voilà, mais c'est tout
voilà, c'est
simplement
tout.
parce que comme on se voit moins en ce moment et qu'on peut être moins présent du fait de nos trucs, bah que vous avez quand on sort des podcasts, le dernier était très long, celui-ci sera un peu moins long, mais il sera quand même long. Vous avez des podcasts un peu plus longs, tout simplement parce qu'on peut, comme on est moins régulier, bah on vous donne plus d'infos en un seul coup. Mais vous inquiétez pas, là nouvelle saison de cartes, bah ça veut dire saison de podcast vidéo, etc. Et là vous allez prendre du Den et du Volvi pour des semaines et des semaines à venir. Et j'espère que vous kiffez.
Comme il dit lui.
Voilà. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Parce que ça nous fait plaisir et qu'on aime bien avoir vos retours. Et qu'on espère qu'il y a encore des gens qui nous écoutent. On n'est pas sûr. On vous fait des poutous les copains. On se retrouve très très vite normalement dès la fin de semaine pour une vidéo annonce, review, carte, etc. Des bisous.
Salut.